qui ?
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International à la fin de ces journées de match retour de Ligue des Champions et avec toujours autant de spectacles, de suspense, d'adrénaline, bref, des buts aussi et une victoire à l'arraché du Real Madrid. Extrêmement cruel pour la Juventus de Turin qui avait effectué une incroyable remontée au score. 3 buts des Bianconeri et puis ce pénalty en dernière minute qui permet aux Merengue de se qualifier pour la demi-finale. Un dernier tir qui va faire polémique pendant longtemps, c'est sûr, et nous allons en parler ici. À Munich, le Bayern s'est qualifié, mais une qualification discrète au terme d'un match sans aucun but. Le FC Séville n'a pas réussi à marquer et a fini à 10. Les Bavarois, en tout cas, rejoignent donc les Merengue, les Romains et les Reds. Tirage au sort des demi-finales, ce sera vendredi à la mi-journée. Et puis en deuxième partie d'émission, nous retrouverons le FC Barcelone qui ne sera pas donc de la fête, sorti hier soir de la compétition par l'AS Roma. En Catalogne, cette 3e élimination en 3 ans ne passe pas. François David nous expliquera ce qui cloche au FC Barcelone ces temps-ci. Mais pour l'instant, nous sommes avec notre duo Nabil Djellit, Patrick Juillard. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Annie, bonsoir à tous.
Ah bah ça va très bien, on n'est pas encore retombé de ces émotions d'après-match.
Hein, c'est difficile d'en retomber. Puis alors un arbitre de luxe ce soir dans Radio Foot International. Je ne sais pas s'il sifflera pénalty tout à l'heure. En tout cas.
Mais il n'a pas la vidéo non plus.
Non. Alejandro Valente, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir. Bonsoir à tous.
Bienvenue dans notre édition de nuit de Radio Foot International. Radio Foot, c'est parti.
Attention à cette première offensive. Douglas Costa qui décale Khedira au deuxième poteau et le but. C'est l'ouverture du score. Première occasion, première offensive. Mandzukic redonne de l'espoir et ça fait 1-0 pour la Juve face au Real Madrid. Wayne avec Khedira qui peut écarter sur Lichtsteiner. Il y a du monde dans la surface, Lichtsteiner peut centrer, bon. Mandzukic, ça fait 2-0, 37 minutes de jeu, incroyable, l'inimaginable est peut-être en train de se produire, la Juve mène 2-0, doublé de Mandzukic. Le centre plongeant de Douglas Costa, c'est relâché, Matuidi incroyable. En héros, la Juve est en train de réussir un miracle ici, à Santiago Bernabeu, ça fait 3-0, c'est à peine croyable. Asensio sur Toni Kroos, le centre vers Ronaldo, le voilà le but probablement, non.
Penalty.
C'est penalty accordé au Real Madrid.
Un rouge pour Buffon.
Wojciech Szczęsny face à Cristiano Ronaldo pour le Real Madrid, c'est fait. Cristiano Ronaldo qui envoie le Real Madrid en demi-finale.
Ils ont plus chanté avant le match qu'après le match, les supporters du Real Madrid. Ils étaient plutôt soulagés à voir leur visage et à voir aussi Cristiano Ronaldo qui venait les haranguer pour leur demander finalement de les encourager, peut-être aussi de les féliciter d'avoir tenu, car le Real Madrid est en demi-finale de la Ligue des Champions, mais que ce fut dur, très très dur pour Cristiano et les siens. Dès le début du match, on a vu que les joueurs de la Juventus les prenaient à la gorge, mais il faut commencer peut-être par la fin pour une fois. Patrick Juillard, y a-t-il ou pas une qualification injuste ? Y a-t-il donc ou pas ce pénalty ?
Une qualification injuste, non, puisque ça se joue sur 2 matchs et que sur les 2 matchs, le Real Madrid mérite de gagner si on fait les comptes. Après, une qualification cruelle, oui, parce que le dénouement de cette demi-finale, de ce quart de finale retour est assez dur, voire terrible pour la Juve. Alors, l'ironie de l'histoire, c'est que la Juve, c'est un des clubs qui a le plus, dans l'histoire du football, bénéficié des largesses arbitrales, voire pire, hein, on
quand
peut dire.
Quand ils étaient en haut de la vague, on va dire.
Il y a toute une histoire sombre, non, mais oui, surtout mais dans son, rappeler, dans son propre championnat.
Bien sûr.
Et je me rappellerai toujours.
On en a parlé de Capello hier et de titres supprimés. Hein.
Je me rappellerai toujours de cette photo d'une façade d'immeuble à Turin. Au 3e étage, il y a un drapeau de la Juve, donc avec les couleurs noires et blanches. Au-dessus, il y a un drapeau du Torino. Et au quatrième étage, pointant l'étage du dessus, il y a marqué Ladri,
les voleurs.
Au sujet de la Juve. Donc finalement, on est toujours un peu le voleur de quelqu'un. Ce penalty est très sévère. Pour moi, il est sifflable, c'est-à-dire que on peut trouver matière à le siffler, on peut interpréter de manière à le siffler. Que ce soit fait à la, comme ça à la fin de ce match, dans ces circonstances, ça ne peut être qu'en faveur d'un club puissant, et c'est le cas du Real Madrid.
Nabil.
Je pense qu'on va en discuter toute la nuit, peut-être le lendemain, peut-être pendant une bonne semaine, penalty ou pas penalty, chacun va interpréter à sa manière.
Pour vous ?
Pour moi, il n'y a pas penalty. Pour moi, il n'y a pas pénalty parce que Mehdi Benatia n'est habité que par une chose, jouer le ballon. Toute son intervention est sur le ballon. Alors après, on peut parler d'un excès d'engagement, charge ou pas dans le dos. Moi, personnellement,
mais dans la surface de réparation, Nabil.
Je n'ai pas cette impression-là. Je peux me tromper. Hein. Je peux être complètement à côté de la plaque. Et je poserai aussi cette question. Est-ce que si ça se passe dans l'autre surface de réparation, est-ce que l'arbitre anglais siffle le pénalty pour la Juve? Voilà, je m'arrêterai là.
On ne le saura jamais, mais Alejandro Valente.
Certainement pas. Je pense que, comme le dit Patrick, c'est difficile de se faire une idée parce que le football est un sport de contact, y compris dans les surfaces. Tout contact ne veut pas dire faute. J'ai l'impression que Benatia, effectivement, met la jambe pour essayer de frapper le ballon. Il y a un contact, c'est incontestable. Après, c'est la décision de l'arbitre d'estimer qu'il y a un excès ou pas d'engagement, etc. Mais ça paraît très sévère quand même dans ces contextes-là. Et ça s'ajoute un petit peu à une longue liste de décisions arbitrales ces derniers temps, plutôt allant dans le même sens. On pense au match du PSG, où le Real Madrid quand même s'est remis dans la bonne sens du match grâce à un penalty.
Et vous disiez, on n'a pas oublié l'année dernière aussi. C'est vrai que le Real Madrid
contre le Bayern
avait aussi bénéficié de certains arbitrages polémiques, disons. Pas
disons
forcément.
C'était plus flagrant contre le Bayern l'année dernière.
D'ailleurs. Mais après, mettons-nous quand on regardons l'action.
C'était un hors-jeu, donc c'est plus facile
à mesurer.
Alors, regardons l'action. Bon, déjà l'arbitre de surface, je sais pas à quoi il sert. Mais bon, parlons de l'arbitre central. Cet anglais. Moi, j'ai regardé ensuite sa position par rapport à l'action. Que lui puisse penser qu'il y a charge de Benatia, parce que il est dos à la situation et il a la profondeur devant lui. Évidemment, on voit Vasquez planté sur ses appuis, qui joue de son corps, et derrière Benatia qui arrive comme un dragster. Évidemment qu'on a sur le coup, on peut avoir l'impression de la faute. Mais moi, j'ai revu plusieurs fois la situation. Après, il y en a, ils peuvent dire le contraire, il n'y a pas de souci. Pour moi, Benatia, il ne cherche qu'à jouer le ballon. Après, il y a aussi un différentiel de gabarit.
Nabil,
Benatia, c'est un grand gaillard de 85 kilos. Et en face, c'est quand même un physique de poche avec Vasquez.
Et ça s'appelle élément. Peut-être excès d'engagement.
Et il y a un autre élément, c'est que Benatia arrive dans le dos de Vasquez. Donc forcément...
L'arbitre de l'autre côté, il sert à quoi?
Le contact surprend le joueur et le déséquilibre plus que s'il est de face. Sachant qu'en plus, comme tout bon attaquant, dans cette situation, il va forcément accentuer, il faut le dire aussi, il a du vice, il va forcément accentuer le contact, évidemment. Mais maintenant, Benatia, le problème, c'est qu'il joue le ballon, le joueur fait écran entre lui et le ballon. Donc, pour jouer le ballon, vu le différentiel physique dont parle Nabil, il est forcé qu'il prenne un gros risque, que l'arbitre l'interprète comme une volonté de faire faute. C'est logique, surtout qu'il met les mains sur les épaules du joueur.
On est à quelques secondes d'une prolongation, on peut siffler un pénalty, mais pour moi, il faut que ce soit un pénalty indiscutable.
Flagrant, ouais, tout à fait.
Or, là, tous nos débats montrent que...
Le problème, Alejandro...
C'est que Marca, qui est un journal pro-Madrid, quand même qualifié de douteux aujourd'hui.
Certes, mais le problème du pénalty, c'est que toutes les situations comme ça dans la surface, c'est forcément discutable. Le hors-jeu n'est pas discutable. Il y a une ligne, on est soit devant, soit derrière. Et on va dire le révélateur est mal placé, d'accord, mais si on règle le problème du révélateur, on peut savoir si le joueur est ou pas hors-jeu. Mais le pénalty, ça reste toujours une appréciation, Alejandro, et forcément, c'est toujours un peu biaisé dans le sens du club le plus puissant.
Hier soir, il y a quand même eu ce pénalty en faveur de la Roma. C'était certes moins en fin de match, mais ça n'a pas autant fait polémique aussi, Alejandro.
Ça n'a pas fait polémique justement parce qu'on n'était pas à la 93e minute et que le match ne se jouait pas là. C'est même à 2-0, même à marquant ce but, la Roma avait du chemin.
Quand elle passait de 1 à 2-0, c'était
énorme.
C'est vrai
que l'action était aussi... pouvait prêter à discussion. Après, les joueurs de Barcelone n'ont pas protesté outre mesure.
On peut parler aussi du premier but de hier de City où il y a une faute de un balayage de Sterling sur Van Dijk au début de l'action qui n'est pas signalé.
Oui.
Bon, et comme c'est, effectivement là c'est la première minute, donc c'est moins crucial que si c'est à la 93e, bon, ça,
oui,
c'est sûr.
Comme quoi hein, c'est toujours difficile.
On aurait aimé, en tout cas Annie, j'aurais aimé que ça se termine autrement pour
à
cette
la loyale, c'est ça.
Parce que la performance de la Juve, on va en parler, elle est complètement ahurissante. Pour ne pas dire plus, j'aurais aimé que la Juve se fasse éliminer, mais autrement que sur une situation aussi clivante et qui, à mon avis, va faire continuer à parler.
Oui, le président de la Juventus de Turin, Agnelli, ce que nous signale Matteo Cioffi, il a déclaré en fin de match, il faut installer au plus vite la vidéo par arbitrage, même en Ligue des Champions. Et c'est étrange que ce choix arbitral qui pénalise trop souvent les clubs italiens soit encore vu ce soir, ce n'est plus admissible que certains pays.
Vous savez, c'est le président de l'association des clubs européens,
oui.
Et il avait dit fortement qu'il était favorable à cette instauration que l'UEFA essaie de combattre.
Exactement.
Et je pense que c'est un point de discorde entre l'association des clubs et l'UEFA qui va se régler, à mon avis, en faveur de la vidéo.
Bien sûr.
Car aujourd'hui, je pense que la Coupe du Monde va faire en sorte que ça devienne un processus.
Ça devienne, oui, incontournable.
Mmh. Mais la vidéo, quelle décision a-t-elle prise sur...
Bon, on va revenir plutôt sur la performance. Vous le signaliez, Nabil, ouais. Alors partons là-dessus. La Juventus, dans cette émission, décidément, avant, on se disait 1% de chances de se qualifier. On voyait surtout pas le Real qui n'avait jamais perdu avec 4 buts d'écart. On les voyait pas faire le match parfait. Et pourtant, ils commencent le match ce soir d'une façon ahurissante et ils tiennent le rythme.
Ils ont commencé ce match d'une façon ahurissante parce que je crois que du côté du Real, même si Zidane l'a rappelé en cours de semaine qu'il ne voulait pas entendre parler d'une qualification après le match aller, il y avait des joueurs en vacances. Je pense notamment à Marcelo sur le côté gauche du côté du Real qui a été méconnaissable pendant 20 ou 30 minutes.
Et
d'ailleurs,
en fin de match.
Les buts sont venus de son côté avec des centres à chaque fois au cordeau qui ont été exploités par un homme qui n'était pas en grève dans le ciel, Mandzukic. Après Dzeko hier, l'attaquant bosnien ou bosniaque comme vous voulez, c'est Mandzukic le croate qui a plané sur Bernabeu, et la réorganisation tactique de Allegri a été intelligente. Ce soir il y a un pied de nez, c'est pour Dybala, mais on en parlera peut-être plus tard. Le 4-3-3 a donné plus de responsabilité à un garçon comme Douglas Costa qui a notamment été très performant sur le côté mais qui est aussi revenu, qui a dézonné dans l'axe. Et puis il y a un joueur qui change tout, il est aussi de Bosnie. Il s'appelle Pjanic, pour moi, qui a été...
Il n'y a pas que lui. Alors,
qui n'était pas au match aller.
Qui n'était pas au match aller, voilà.
Mais en fait, la différence est là. C'est-à-dire qu'au match aller, Allegri avait dépeuplé son milieu axial pour essayer de renforcer les côtés. Il s'était fait complètement, entre guillemets, lui-même troué dans l'axe. Et là, il a remis donc Pjanic, qui était revenu de sa suspension, et surtout Blaise Matuidi, qui a fait un travail de box-to-box absolument fantastique. Et le but qu'il marque, c'est encore une situation où il s'est projeté aux avant-postes, il a dépassé sa fonction, et il avait un gaz incroyable. Il a joué presque les deux matchs en un seul, Blaise Matuidi, ce soir. Et c'était fantastique, et ça aide beaucoup quand on a un milieu équilibré comme ça, pour contrer un Real qui lui-même était pas du tout dans ses standards habituels en termes d'intensité, en termes de justesse technique, ça fait une différence énorme.
Vas-y Annie, je vous en prie.
Merci Nabil.
On a tellement envie de parler de ce match.
Je vous explique. Gigi Buffon vient de parler et on va l'entendre parce que ça nous fait revenir sur le penalty, mais il vient de réagir. On le précise à nos auditeurs, le score était final de 3-1, mais surtout ils ont terminé à 10. Ces joueurs de la Juve, puisque Gigi Buffon se fait expulser, il réclame beaucoup trop du penalty et l'arbitre anglais l'a expulsé. On écoute donc ses explications.
L'arbitre a sifflé.
Il a sifflé
une faute qu'il est le seul à avoir vue.
Mais
pas besoin de se plaindre. Lui l'a vu. Et il aurait pu voir autre chose. Et il aurait pu voir également. Un pénalty aurait pu être sifflé à Turin à l'aller. Ça n'a pas été le cas.
Ci devono entrare, devono essere protagonisti, uomini.
Il faut
qui ont les attributs,
il faut des gens qui aient les compétences, qui aient une certaine personnalité.
Si non si ha personnalité,
parce
non
que si on n'a pas de personnalité, stadi, on ne peut pas rentrer dans ces stades et sinon on regarde le match dans les tribunes.
Bon, il persiste.
Oui,
et il
persiste,
signe.
Mais il calme quand même un peu. Il calme, je trouve qu'il calme
il charge
un peu.
Bien l'arbitre. Hein.
Ouais, bon, après, il a chargé tellement sur le terrain.
Disons que l'arbitre, le match lui échappe à la fin. Ouais, parce que exactement. C'est carton rouge, on n'avait pas besoin.
Mais il était un peu débutant, c'était un carton arbitre jaune. Anglais, Alejandro, en plus, il est à ce niveau de la compétition.
Bah, je pense que malheureusement, on commence à avoir l'habitude de voir des arbitres qui ne sont pas à la hauteur dans beaucoup de rencontres.
Non, mais il y a une telle pression. Il y a
et surtout qu'il y a des bons
financiers.
Arbitres anglais. Pourquoi avoir pris celui-là?
Monsieur Webb, par exemple. Question.
Bah, déjà, surtout déjà, Atkinson. Pas d'arbitre anglais à la Coupe du Monde, ça veut dire quelque chose.
En tout cas, la Juventus, Alejandro, vous aussi, vous avez été surpris de finalement, non seulement de son attitude, mais du fait qu'elle tienne pratiquement tout le match et qu'elle aligne les buts alors que le Real était...
Disons que je suis moyennement surpris. Bah, déjà, j'ai pas le même avis que Patrick. Je pense que sur l'ensemble de deux matchs, quand même, la Juve méritait mieux parce que les 3-0 à l'aller étaient très sévères par rapport au match qu'on avait vu. Et la Juve n'avait pas réussi.
Enfin, quand même, Alejandro, c'était une vraie démonstration à l'aller.
Ah non, quand même, on a eu des phases et des occasions énormes pour la Juventus également.
Ce qui est surprenant, c'est surtout le match retour. Bon, qu'on puisse estimer que le match aller, peut-être que l'écart puisse être un peu disproportionné, que Ronaldo est complètement survolé les débats et a été avec son à l'image de son ciseau incroyable. Moi, ce qui me stupéfait, c'est le match retour parce que ce qu'ils ont fait. On peut regarder dans les annales, je crois qu'il y a très peu d'équipes qui ont été menées jusqu'à 3-0 face à une équipe du Real Madrid, et c'était tout sauf une petite équipe du Real Madrid, même s'il y a eu de la suffisance au départ. C'est une équipe qui est double championne d'Europe, Annie, pour le coup, avec les mêmes éléments.
Mais alors justement, comment comprendre cette différence de niveau entre le match aller et le match retour?
Il manquait Ronaldo, mais pas le Ronaldo de l'attaque, le Ronaldo de la défense, Ramos. Et parce qu'on a vu une fébrilité, je ne sais pas ce que vous en pensez,
oui,
terrible en défense. Alors bon, Marcelo, il était en vacances, mais Varane, dès qu'il faut assumer un peu le statut de leader, c'est un peu plus compliqué pour lui. Varane, il a été meilleur dans la surface de la Juve en se créant des situations
que
dans
marquer,
la surface.
Ouais. On peut avoir la surprise de voir Bale titulaire alors que ses prestations sont catastrophiques depuis un moment.
Après, ça pouvait s'entendre en termes de management, parce qu'il a une gestion d'effectifs. Bale, vous le traitez pas non plus comme un joueur de 17 ans. Il avait gagné 3-0 à l'aller. Il pouvait le mettre avec Ronaldo. C'est vrai qu'il a manqué Benzema, mais ça, c'est un autre débat. Annie, c'est la défense, la fébrilité de la défense de cette
qui a impacté toute l'équipe.
Qui a impacté
finalement.
Et puis attendez,
qui a rendu fébrile tout le monde.
Et puis c'était couscous boulette du côté du gardien costaricien qui est très bon en règle générale. Keylor Navas, sur le but de Mandzukic, le deuxième de la tête, c'est 50-50 pour moi, parce que Mandzukic place bien sa balle,
mais il doit pas prendre le but à cet endroit-là.
Voilà, et Navas, bon, se fait avoir dans le soupirail.
Et le troisième,
bon, no comment, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, il est pour lui, hein.
Je citerai pas de nom pour comparer, mais ça m'a rappelé certains gardiens de Ligue 1. Mais...
Alejandro, c'est Merengue, on a été surpris quand même. En plus, bon, Cristiano était peut-être dans un jour un petit peu moins bon. Et surtout, c'est vrai qu'ils avaient du mal à mener les attaques.
Oui et non, parce que quand même, la saison du Real Madrid est quand même assez hachée. Ils sont quatrième en championnat. Ils ont été deuxième en phase de poule.
Ils sont très réguliers.
Ils ont été deuxième en phase de poule. On peut dire qu'ils connaissent des périodes hautes et basses et toutes leurs prestations ne sont pas parfaites. Souvent, Cristiano Ronaldo cache bien des misères au niveau de la performance collective du Real.
En même temps,
ça peut être très sincèrement.
Un peu surprenant. C'est une équipe quand même la pièce, elle tombe toujours de leur côté, quoi. Même quand ça se passe mal. C'est peut-être une très grosse piqûre de rappel. Là, on en discute en disant peut-être qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. On va se remémorer ce match face à la Juve en disant que ça faisait partie de cette histoire de Ligue des Champions, qu'ils sont passés près du gouffre, près du ravin, et finalement ils sont passés quand même. C'est le Real, c'est Ronaldo, c'est Zidane, et ils vont continuer.
Et ben on va l'écouter justement, Zinedine Zidane, parce que à la fin de la rencontre, il reconnaissait au micro de nos confrères de beIN Sport que quand même la prestation de ces hommes, c'était pas vraiment ce qu'il en attendait.
Franchement, ça a été un match compliqué. Un match compliqué d'entrée. Bon, quand on prend un but au bout d'une minute de jeu, de toute façon, il s'est passé exactement ce qui s'est passé au match aller. Bon, au contraire, c'est-à-dire que la Juventus est rentrée dans ce match, nous pas du tout. Et voilà, donc c'est pour ça, encore une fois, que de toute façon, les mots, quelquefois, ne servent à rien. Il faut juste montrer à chaque fois sur le terrain. Mais bon, voilà, on s'en sort bien. Je pense que sur les 180 minutes, on mérite quand même notre qualification. Même si la Juve a fait son match ce soir, je pense que sur l'ensemble des deux matchs, on mérite de se qualifier parce que même ce soir, on a eu des occasions pour marquer beaucoup de buts, mais on l'a pas fait.
Voilà ce que dit Zinedine Zidane. On s'en sort bien, reconnaît-il.
C'est pas faux sur la première mi-temps quand même, Annie, parce qu'il y a un but qui joue à un chouïa. On parlait d'arbitrage. Alors dans ce sens-là, ça aurait pu aussi basculer du côté du Real. Il y a eu un but, je crois, de Isco, c'est ça?
Oui.
De Isco qui aurait pu très bien être validé. Voilà, on serait pas là en train de palabrer pendant des heures non plus autour de.
Il y a une tête
de
Varane, hein, comme on le disait tout à l'heure sur la barre. Enfin, sortie par.
Et il y a l'aile de pigeon de Bale. Enfin, la talonnade de Bale qui frôle le poteau.
C'est vrai qu'ils ont eu 4-5 situations fortes et ça, c'est indiscutable.
Ce qu'on peut reconnaître, c'est que le Real a le mérite quand même, en fin de match, d'aller chercher la victoire alors qu'ils étaient dans une situation très inconfortable, car si la Juventus marquait un quatrième but, ils auraient été obligés de marquer deux buts.
Ouais, ouais.
Donc, ils auraient pu être tentés d'essayer de geler un peu les choses, mais non, ils sont allés une fois, une autre fois, chercher jusqu'à obtenir ce pénalty douteux ou pas, chacun se fera son opinion.
Bon, en tout cas, sur l'ensemble des deux matchs, c'est donc la loi, on va dire, et c'est le Real Madrid qui s'en sort et qui passe en demi-finale. Ce Real Madrid, c'est quand même une équipe, effectivement, vous le disiez, Alejandro, mais depuis la phase éliminatoire, on trouvait qu'ils étaient quand même dans une meilleure posture et dans un meilleur style que dans la phase de poule.
Oui, c'est sûr qu'ils montent en puissance et ils sont programmés pour ça. Et d'ailleurs, ils ont déjà renoncé depuis longtemps au championnat. Ils ont été éliminés très tôt de la Coupe d'Espagne, donc ils n'avaient pas d'autre objectif depuis pratiquement le mois de janvier que la Ligue des Champions. Donc ils se sont préparés en conséquence.
Et pour en revenir à la Juve, pour moi, il y a eu deux Argentins absents quand même ce soir. Dybala, qui a été expulsé, et Higuain, même s'il a fait un travail défensif intéressant.
Ah, t'es dur avec Higuain, là.
Je l'ai trouvé peut'être un peu plus discret que Mandzukic ou
c'est
Douglas
Higuain
Costa.
De l'équipe d'Argentine.
Il a bossé comme 10, Higuain, quand même, sur le replacement.
Il a récupéré beaucoup de
balles. Sur la récupération, il était presque au milieu de terrain avec les autres. Enfin, pour moi, il a été... autant Mandzukic a été fantastique dans la finition, mais on sentait bien qu'il n'avait pas le physique, le jus pour jouer les 90 minutes, surtout sur la fin.
À part le remplacement de Diceglio qui se blesse en début de match il ne fait pas d'autres remplacements jusqu'à la sortie.
Il réagit peu parce qu'il juge sans doute que son équipe est parfaitement en place, mais c'est vrai que
à la fin il s'était bien fatigué.
Je trouve qu'Higuain a eu beaucoup de travail parce que Mandzukic faisait pas toujours les compensations, donc lui-même devait en faire plus. Je trouve Nabil un peu dur avec Higuain.
Oui, c'est vrai. Mais et alors, pour en revenir aussi à un des principaux acteurs qu'on va voir à la Coupe du Monde, c'est Mehdi Benatia, le défenseur marocain, qui va croiser Vázquez avec le Maroc. J'espère qu'il ne refera pas la même chose dans la surface face à l'équipe.
Mais ce sera le troisième match de poule
face à l'équipe.
Peut-être que les deux équipes seront déjà qualifiées.
Blaise Matuidi, à la fin du match, il était évidemment très impacté par cette élimination et les circonstances dramatiques. Écoutons-le au micro de nos confrères de la chaîne beIN Sport.
On est triste, on est énervé parce que on peut perdre des matchs, mais pas comme ça. Là, on a fait ce qu'il fallait, on a tout donné, on a marqué 3 buts ici face à la meilleure équipe du monde. Voilà, on mène 3-0 et puis il y a cette action à la fin et là je pense que l'arbitre il gâche tout parce que il a pas le sang-froid. Après j'ai pas revu les images, mais en tout cas à vitesse réelle on a l'impression qu'il y a rien du tout et c'est ça qui est désolant. Je pense que il aurait pu avoir ce recul là de se dire que c'est quand même un quart de finale de Champions League et que c'est les arrêts de jeu, que voilà, avoir un peu plus de recul, il n'en a pas eu, il a agi tout de suite et c'est ça qui est désolant et ça gâche tout ce que l'on a fait pendant tout le match. Voilà, on peut être fier de nous parce que ce qu'on a fait c'est juste incroyable et après de perdre comme ça, ouais, on est très déçus, on est très tristes, surtout pour des joueurs comme Gigi qui méritait pas ça, il a fait un grand match aussi et voilà et en un instant on gâche tout, voilà, il y a une personne qui gâche tout simplement. et ça, on est très énervé par rapport à ça.
Oui, on gâche tout, et c'est vrai que Nabil, c'est cruel.
Bah oui, c'est cruel parce qu'en fait, c'est pas qu'une qualification en demi-finale, Annie, c'est aussi un exploit pour l'histoire du foot. Ils étaient en train de vivre quelque chose d'unique, ce qu'a vécu hier la Roma face au Barça, ou le Barça la saison dernière face au Paris Saint-Germain. C'est quelque chose que vous pouvez raconter pendant 10, 15, 20, 20, 25 ans. C'est pas un partout, un zéro à l'extérieur. C'est un truc irréel, incroyable, avec Cristiano Ronaldo, un des plus grands joueurs de l'histoire de l'autre côté, Zidane sur le banc. Ce soir, c'était un moment d'histoire du football, et on en parlait hier avec ce Barça-Roma qui nous a mis dans tous nos états, mais ça fait deux matchs là où on se réconcilie quand même avec le foot. Moi, j'avais pas besoin de me réconcilier, mais il y a tellement de choses qui sont décriées. Et quand arrivent les grands matchs, les grands joueurs.
Enfin, on se réconcilie avec le foot, oui,
pas l'arbitrage.
Pour le scénario, mais sur la manière, un petit peu moins quand même.
Bah, disons que ça jette quand même une ombre sur ces tableaux finales. Quoi.
Bon, oui, mais
enfin, elle existe depuis longtemps et il faut dire pas uniquement à l'avantage du Real. Je sais que vous n'allez pas forcément être d'accord avec moi, mais le Chelsea-Barça en 2009 n'était pas non plus au-dessus de tout soupçon.
Il y a forcément plein d'exemples, même la remontada l'année dernière face au PSG, on en avait aussi beaucoup parlé. Bon, quelques instants, il nous reste pour évoquer l'autre match de la soirée, même si c'était beaucoup moins fringant. Là, on avait choisi la bonne chaîne, mais surtout le Bayern a gagné sa qualification assez petitement. C'était sans marquer aucun but.
Le Bayern a géré tranquillement. La plupart des situations dangereuses étaient quand même plutôt pour le Bayern, en particulier en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a senti que le Bayern cherchait surtout à attendre tranquillement le coup de sifflet final.
Il faut rappeler que la Séville devait marquer deux buts.
Voilà, deux buts, c'était beaucoup sans en prendre un seul. C'était quand même très très compliqué, sachant qu'en plus Séville est une équipe qui n'est pas réputée pour son efficacité, qui a un problème général à concrétiser ses temps forts, qui a souvent besoin de quatre occasions pour marquer un but. Donc c'est pas évident, c'était presque mission impossible.
Il y a eu un penalty un première mi-temps réclamé par Séville sur une main des Boateng, je crois. Bon, l'arbitre a estimé qu'elle n'était pas volontaire.
Voilà. Encore un cas où la vidéo ne permettrait pas forcément de trancher, vous voyez.
C'est un parcours plus qu'honorable pour une équipe qui est cinquième de Liga, qui est aujourd'hui dans le top 8 européen, alors certainement plus vers la huitième place, puisqu'ils ont été éliminés. Ça a permis également, encore une fois, à Séville de démontrer toute la qualité de son recrutement et de mettre en lumière des joueurs. Certains qu'on connaissait comme Benyedder, mais d'autres, comme l'anglais, par exemple, le français, en défense centrale, qui est une promesse énorme pour l'avenir. On avait aussi tout là. Toute la maîtrise d'un Ever Banega qui est un métronome assez incroyable.
Ah oui, qui s'est senti beaucoup. Enfin, son retour a fait beaucoup de bien ce soir.
L'Argentin,
à Séville,
donc, franchement, ce soir, Séville, c'est mission réussie. Ils tombent face au Bayern de Munich la saison dernière. Ils pouvaient avoir des vrais regrets parce qu'ils avaient été éliminés en huitième de finale face à Leicester. Ils ont fait un tour de plus cette saison.
Ce qui fait que, eh bien, pour les affiches des demi-finales, hein, je le disais tout à l'heure, on aura donc le Real Madrid, la Roma, Liverpool et le Bayern. C'est la première fois depuis 2010, me précisait David Finzel, que quatre pays sont représentés dans cette phase finale de la compétition. Est-ce que c'est finalement, ça n'a pas été si logique puisque les futurs champions de leur championnat, Alejandro, sont exclus, et je pense au Barça, je pense à City,
quand même. Le Bayern est qualifié. Oui. La Juventus n'est pas passée loin. Enfin, c'est pas forcément. Il n'y a pas forcément un message, à mon avis, à ces niveaux-là. Ça a été des matchs ouverts qui se sont joués pour la plupart à très peu de choses. Les matchs Barça-Rome se jouent au but marqué à l'extérieur. Là, le Real s'est qualifié pareillement avec un penalty à la dernière minute. Séville quitte la compétition de la tête haute sans perdre à Munich. Donc, je pense que dans l'ensemble, à part Manchester City qui a perdu le match, il y a eu des matchs très équilibrés.
Et ça sera surtout les quatre pays qui l'année prochaine auront quatre qualifiés automatiques.
Écoutez, ça s'appelle une excellente symétrie, appelez ça comme vous voulez.
Il faut savoir quand même que les Anglais étaient assurés d'avoir au moins un club en demi-finale puisqu'ils se rencontraient en quart. Donc ça, bon, c'était posé déjà. Sur le reste, c'est quand même l'absence de tout club espagnol à part le Real, quoi. Un seul club espagnol en demi, c'est
pas
énorme.
Sur trois en quart.
Mmh.
Et évidemment, rappelons-le, aucun club français. On y reviendra demain, évidemment, dans Radio Foot International sur ces quarts de finale retour et surtout les enseignements avant le tirage au sort de la demi-finale. Pour l'instant, eh bien, on va retourner vers Barcelone, vers cette équipe de Barcelone qui a été éliminée hier. Quelles sont les conséquences? Comment cela est-il ressenti du côté de la Catalogne? Nous retrouvons notre débat de l'après-midi avec Salim Bongali, Naïm Moniol et Karine Galli.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Lancio lungo di De Rossi, palla lunga, lancia di Cianca, in area di rigore, Cianca, tira, go, 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 gol! Tiro, gol! Il gol del raddoppio, 2-0, 2-0 a mezza altezza d'Anelino, a mezza altezza d'Anelino gliel'hai messa, 2-0. Parte Under, eccolo il cross, Manolasso di testa, mamma mia, mamma mia,
mamma mia, mamma mia,
mamma mia, let me go, Beelzebub has a devil put aside for me, for me.
Une petite œuvre signée David Finzel et Guillaume Ploquin, bien sûr. C'était l'italien Carlo Zampa du canal Mediaset Premium, mais qui en perd sa voix. Il était auparavant commentateur officiel de la Roma et apparemment hier soir il avait revêti son costume de supporter inconditionnel.
Et là c'est Queen, hein.
Oui, oui, Mamma Mia, ça, on s'en souvient. En tout cas, la Roma s'est donc qualifiée au terme d'un match un peu fou où les Romains ont eu le cœur à l'ouvrage et surtout ils ont cru en leur étoile, inscrivant 3 buts sans en encaisser. Dzeko d'abord, et puis comme à l'aller, eh bien Di Rossi et Manolas, sauf que à l'aller ils avaient marqué contre leur camp et cette fois-ci ils ont marqué là où il fallait. Une nuit de fou et de fête dans le Stadio Olimpico de Rome. La performance la plus belle de la récente histoire de cette équipe sur la scène européenne. Alors évidemment, c'est le coup de massue pour le Barça, pour ses supporters et pour leur supporter numéro 1, Alejandro, en France. Hein, c'est vous le second?
Je sais pas.
Vous avez pleuré hier soir? Parce que non. Ça, on vous a enregistré hier soir.
Non, parce que je pense que Barcelone est passé complètement à côté de son match. Oui. Donc c'était une défaite qui n'appelait pas à
remettre en cause.
À regret, quoi. Voilà. C'est pas comme lorsqu'il avait été éliminé par l'Atlético dans des conditions plus discutables, etc. Là, il y avait une équipe, la Roma, qui a cherché à combler un handicap qui était très important. Et un Barcelone qui était sans doute cuit physiquement par une année qui est quand même épuisante, et surtout la période d'hiver avec la Coupe d'Espagne a été très longue et très éprouvante. Mais aussi par la politique de Valverde qui envoie des messages parfois étranges. Il fait jouer Busquets qui infiltrait. Et Paulinho, qui était un peu son chouchou en début de saison, reste sur le banc. Il fait pas des modifications d'équipe jusqu'aux dernières minutes. On voit que certains joueurs étaient vraiment, vraiment très fatigués, très cuits. Et il n'y avait pas d'intensité. Barcelone a fait en tous les matchs autant de fautes que la Roma en première mi-temps. Donc ça montrait quand même que les joueurs, c'était dit, et Valverde avec, on va tenir, on va subir, et puis on va essayer de marquer un ou deux buts, et puis ce sera plié.
Bon, alors Alejandro n'est pas déçu, il a plein d'explications, mais François David aussi sûrement, parce que...
Si, je suis déçu, mais...
non, mais vous dites, bon, de toute façon, voilà...
On n'est pas là pour...
Non, mais c'était surtout le scénario, effectivement. François David, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
François David, alors quels sont les commentaires du côté de Barcelone après cette élimination? Parce que on a vu, ça doit être très pas très joyeux, on va dire. La une de Mundo Deportivo évoque la chute de Rome et parle d'un Barça méconnaissable. Alejandro était en train de le dire. Est-ce que c'est la tonalité du côté de Barcelone? On se demande un peu comment on en est arrivé là.
Bah groggy, tout le monde un petit peu groggy ici. Surtout hier soir, personne ne comprenait trop. Moi j'ai regardé des émissions, j'écoutais des émissions jusqu'à 6h du matin hier, parce que ça, personne ne comprenait, tout le monde voulait savoir un petit peu ce qui s'était passé. Alors, il y avait quelques signes avant-coureurs quand même. Alejandro complètement raison de signaler Valverde. C'est vrai que depuis un mois, on ne comprend pas ce que fait Valverde. Il fait jouer des joueurs qui sont cuits physiquement. Un joueur comme Iniesta a l'habitude de sortir autour de minute 75, 76, 77. Busquets a joué infiltré. C'était la même équipe hier soir que contre Leganés samedi dernier. Il n'avait pas fait un seul changement.
C'était la même équipe le match aller, parce que contre Leganés, il avait fait quelques modifications. Il y avait eu Vermaelen, par exemple.
De manière générale, Alejandro, c'est ce qui ressort ici, c'est la gestion un peu petite main de Valverde, qui n'a pas une très très grande expérience européenne. Et c'est vrai qu'il a affronté ce match retour, avec malgré 3 buts d'avance, avec un plan assez conservateur. On va faire tourner le ballon. En fin de match, il faut entrer André Gomes pour essayer de tenir le ballon, mais moi je le mets à la place des supporters de Rome ou même des joueurs de Rome. On sort Iniesta pour faire André Gomes, ils n'ont pas peur. Alors ça met en compte aussi la politique sportive du Barça depuis plusieurs saisons. C'est quand même 4 fois en 5 ans qu'ils sont éliminés en quart de finale. Et on parle du Barça, 4 fois en 5 ans. Alors ils l'ont gagné en 2015, mais ça fait 3 années de suite qu'ils sortent en quart de finale de Ligue des Champions. Depuis 2015, j'ai regardé l'équipe hier soir. En 2015, de la finale de Berlin, tu remplaces Daniel Alves par Semedo et Sergi Roberto par Neymar. C'est exactement les mêmes joueurs. Et avec 450 millions de transferts dans cette période. Donc, les joueurs qui sont arrivés ne sont pas au niveau et on tire sur la corde. On tire sur la corde sur du Busquets, sur du Iniesta, sur du Luis Suarez qui est complètement méconnaissable. Un seul but en Ligue des Champions cette saison. Et sur le Lionel Messi, alors ce serait très dur de signaler cette fois Messi, parce que tant de fois ils les ont sauvés, mais c'est vrai que Messi hier soir ne pouvait pas. Moi, ça me donnait l'impression de Messi avec l'Argentine. Alors, deuxième coup pour Alejandro, je suis désolé Alejandro, mais c'est vrai que c'est l'impression que ça nous donnait. C'est l'impression que ça nous donnait ça hier soir, Messi perdu au milieu de joueurs qui ne se comprenaient pas.
Alejandro, pourtant, vous nous disiez que du côté de l'Argentine, on est au moins content d'une chose, c'est que Messi va se reposer.
Absolument. En Argentine, c'est vrai que le Barça avait promis au sélectionneur argentin de ménager progressivement Messi en cette fin de saison. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne tenait pas du tout parole. Il alignait systématiquement Messi. Et les Argentins n'étaient pas du tout contents de cette situation.
Là, ils vont l'être maintenant.
Il avait déjà...
Ils le sont.
Manquer les matchs amicaux de l'équipe d'Argentine au mois de mars, et ça avait beaucoup déplu en Argentine. Et donc aujourd'hui, ils se disent au moins là, il ira pas jusqu'au bout en Ligue des Champions. On sait que la finale est le 26 mai, donc c'est une finale très tardive. Bon, Barcelone n'a besoin que de 10 points pour être champion d'Espagne, donc ce sera sûrement réglé d'ici quelques semaines, et il y a la finale de la Coupe d'Espagne, et puis il pourra enfin tourner et se reposer davantage.
Naïm, lorsque François David nous dit qu'on est en Catalogne, on a la sensation qu'il tire sur la corde, c'est vrai que, alors épargnons Messi, parce que de toute façon il les a bien des fois sauvés ces derniers temps, en championnat comme en Ligue des Champions, mais c'est vrai qu'on se pose des questions autour de l'effectif avec ses recrutements, et notamment Dembélé, bien sûr.
Après, je suis moyennement d'accord quand François dit les joueurs sont pas au niveau. S'ils sont pas au niveau, c'est pas de la faute de Valverde. Si Dembélé est pas sérieux dans sa vie privée, dans son alimentation, dans ses phases de repos...
Mais il a été blessé assez longtemps moment.
Mais c'est pas une raison pour aller en boîte jusqu'à 4h du mat, Vanny.
Il a plutôt fait du bien au Barça dans les dernières minutes.
Il rentre en minutes. Très tard. Le coaching est raté hier, de toute façon. Voilà. T'es mené 2-0, tu fais rentrer Paulinho, mais si footballistiquement tu gagnes rien, au moins il va mettre des coups, il va casser des trucs. Donc oui, l'effectif a été usé. Liverpool tourne depuis quelque temps avec 14-15 joueurs par contrainte. Valverde, c'est par choix. C'est pas une très bonne gestion, pas quand on a un garçon comme Iniesta dans l'effectif, pas quand on a un garçon comme Busquets aussi également. Donc voilà, il y a eu des recrues très chères. Barcelone a recruté pour très très cher. Coutinho peut pas faire la Ligue des Champions.
Donc mal recruté.
Pas mal recruté, mais on s'interroge sur qui a fait véritablement le recrutement. Coutinho peut pas faire la Ligue des Champions.
Il a eu le nez creux, d'ailleurs. Quel bon choix de quitter Liverpool pour Barça ou Manchester United.
Mais après, c'est vrai que Nelson Semedo fait un très mauvais match. Yuri Mina, il a été recruté, il aurait pu jouer, il a pas joué. Dembélé était recruté à prix d'or, il est sur le banc, il rentre pas, ou alors à 8 minutes de la fin. Paulinho, c'était l'homme du Barça en première partie de saison, il joue plus en deuxième partie de saison. Donc voilà, il s'est passé, je sais pas, ce qui se passe dans la tête de Valverde, sa manière de gérer l'effectif, mais il s'est trompé, il l'a payé. Hier.
Et on rappelle que Piqué, qui est quand même touché également, est systématiquement titularisé, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, alors qu'il y a Vermaelen qui a joué samedi dernier et qui a fait un beau match et qui est pratiquement absent de toutes les convocations.
Karine, comment vous assemblez cette déroute du Barça?
Ben, alors, je dis pas du tout que je la prévoyais, parce qu'évidemment, je pensais qu'ils allaient taper la Roma, mais par exemple, moi, déjà au tour précédent, face à Chelsea, j'avais trouvé qu'ils avaient été en difficulté. Au match aller, ils sont en grande difficulté. Au match retour aussi, il y a un grand Messi, mais c'est un grand Messi, c'est pas une grande équipe du FC Barcelone. Et hier soir, j'ai trouvé que tout le monde était à côté, mais qu'ils étaient sûrs d'eux, en se disant, de toute façon, on marquera au bout d'un moment. Et même le coaching, effectivement, de Valverde est dingue. À 2-0, t'es mené 2-0 avant l'heure de jeu, ce qui est quand même extrêmement tôt. Donc tu peux encore faire changer le cours du match et finalement il ne change rien. Il est persuadé qu'il va y avoir un éclat de génie de Messi et c'est que une fois qu'il prend ce troisième but de Manolas qu'il commence un petit peu à jouer et à faire un match digne de Ligue des Champions.
Mais 10 dernières minutes.
Voilà, ils ont été tous fautifs, c'est-à-dire le coach qui ne change rien alors qu'il a des possibilités. Tu vois par exemple que ton arrière droit est en galère du début jusqu'à la fin. Semedo, il le change jamais. Tu vois qu'il y a un problème aussi au milieu de terrain. Tu ne changes rien. Donc il est fautif, mais les joueurs aussi, parce qu'honnêtement, j'ai trouvé qu'ils avaient été tous absents et ils n'ont pas mis les ingrédients nécessaires. Je pense que là, il y a eu un petit peu de suffisance pour le coup.
François David, est-ce que Valverde se retrouve finalement un peu mal embarqué, voire en danger?
Mais après, ça dépend pas que lui. Moi, je vais vous dire un titre finalement honorifique que le Barça ne pourra pas avoir. Et qu'ils espèrent finalement avoir, c'est que indirectement que le Real Madrid ne gagne pas la Ligue des Champions. Si si Barça gagne la Liga et la Coupe du Roi et que le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, ce sera une saison ratée. Si jamais le Real Madrid ne va pas au bout et que eux ils font le doublé, ça pourrait être considéré comme une saison correcte pour le Barça. En attendant, ils n'ont pas terrain à perdre dimanche contre Valence, qui vient quand même au Camp Nou. Et Valence, c'est une équipe très dangereuse. Après une deuxième défaite consécutive, et là, ce serait très dommageable. Ils n'ont pas terrain à perdre contre Séville en Coupe du Roi. Mais c'est vrai que l'image de Valverde était cornée. On a trouvé un coach hier soir sans idée, sans personnalité finalement, et qui n'ose pas faire des choix forts. Je répète encore une fois, pas aidé par le recrutement. Enfin, vous parlez de cette saison. On pourrait parler de ceux d'avant, Lucas Digne, Paco Alcácer, André Gomez, Alex.
Lucas Digne était blessé.
C'est le niveau dont il parle. Ouais. François, tout ça, c'est pas l'époque Valverde aussi.
Non.
Lucas Digne, Alcácer et compagnie.
Pour cette saison, mais tout le monde est coupable.
Oui, je suis bien d'accord.
Mais il recrute, on ne sait pas que. Maintenant, sur Valverde, voilà, on lui. Il a essayé en début de saison d'être pragmatique parce qu'il savait qu'il n'avait pas les joueurs pour remplacer Neymar, Dembélé était blessé. Alors il a instauré une espèce de forteresse pour pas que le Barça n'encaisse trop de buts, tout en donnant son destin finalement au pied de Messi et au coup de génie au coup de but de Suarez. Maintenant, quand ça passe pas, ça passe pas. Et hier soir, c'est vrai qu'il a été critiqué. Il y a des personnes qui disent que finalement, c'était pas la bonne personne.
Salim,
même s'il a aucune défaite cette saison et que ça reste un bon entraîneur.
Salim, François a évoqué effectivement ce recrutement de ces dernières saisons, etc. C'est un fait, mais sur ce match-là, vraiment Valverde, notamment à 2-0, on l'a dit, il y a des choix à faire d'entrée de jeu notamment. Et le Barça, il y a une chose ce club ne sait pas faire, alors avec la domination totale qu'elle exerce notamment en championnat, c'est gérer un résultat. Le Barça sait attaquer et mettre des buts, mais ne sait pas tenir un score. C'est comme Manchester City.
Il n'a pas l'habitude, mais c'est vrai.
Ne sait pas gérer un résultat.
Pourtant, il l'avait fait un petit peu ces dernières semaines, forcé, parce qu'on sentait qu'il jouait par à-coups, qu'après il gérait, etc.
Mais là, en l'occurrence, à 2-0, surtout avec l'Ice Rome qui est en train de pousser, vous ne pouvez pas vous permettre de gérer. Vous devez renforcer ou faire quelque chose. Le Barça et Valverde, donc, ne pourrait pas vous le faire. C'est pour ça que je parle de responsabilité du coach.
Il a évidemment sa part de responsabilité sur le coaching. Après, c'est le jeu des médias, mais moi, je ne suis pas forcément d'accord pour qu'on remette tout en cause sur un match. Ils prennent une claque. Il y a absolument rien à dire, ils l'ont mérité, ils ont très mal joué, je rejoins tout le monde, ils ont tous été nuls. Mais si on prend la saison du Barça, ils sont quand même survolés la Liga, ils ont une différence de but de plus 61, on a retrouvé un vrai Messi comme on ne l'avait pas vu depuis 2 ou 3 ans, le Barça a retrouvé une défense, ce qu'on ne lui avait pas connu depuis quand même quelques temps, tout ça c'est aussi grâce à Valverde, tout le monde le critique, c'est pas l'homme de la situation, il n'a pas d'expérience, oui mais il a redonné au Barça des choses qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et on l'a tous souligné cette année. Donc c'est pour ça que j'aime pas d'un coup cette espèce d'hypocrisie et de malhonnêteté générale.
Non, vous avez raison. Et en plus, il avait senti qu'il y aurait des problèmes à Rome. Il avait eu un message très fort en disant voilà l'éliminatoire est loin d'être joué, ça va être très compliqué. Bien donc sûr, il savait que ça le serait, mais il n'a pas su peut-être évaluer la capacité de certains de ses joueurs à être à la hauteur
je maintiens ce que je dis. À part Manchester City, je n'ai pas vu une équipe aussi forte que Barcelone. Ça n'a peut-être pas été comme Manchester City, c'était peut-être pas du Barça de Guardiola, de Cruyff, de Rijkaard, de je sais pas quoi, mais à part City, j'ai pas vu une équipe aussi forte que Barcelone cette année.
Bayern Munich est quand même énorme depuis Kenkès est revenu.
Depuis Kenkès est revenu.
Bah oui, mais il est revenu en septembre. Oui, enfin, ça va.
Et ils sont pas dans le même championnat non plus, Karine.
Oui.
Non, mais enfin, entre survoler la Bundesliga, survoler la Liga, c'est pas la même chose.
C'est un rouleau compresseur. Et sur la scène européenne, ils sont aussi en mode rouleau compresseur. Enfin, moi, je trouve que le Bayern, on l'oublie quand même très souvent parce qu'ils
sont en Allemagne. Non, c'est pas une question d'oublier le Bayern. C'est juste une question que c'est plus facile de survoler la Bundesliga que la Liga.
Et sur le choix de propos, Naïm, ok, Valverde est énorme depuis le début de saison. Il a changé beaucoup de choses. Mais je parle de ce match précis. Ce match précis, il est vraiment en grande partie.
Mais oui, faut-il. On est d'accord, il y a aucun souci là-dessus.
François, juste pour terminer, il y a Ousmane Dembélé. C'est vrai que tout à l'heure on en parlait. Alors, il a du mal à s'adapter, mais en même temps, c'est à peine sa première saison. En plus, elle a été amputée pas mal par les blessures. Est-ce que vous pensez qu'il pourra finalement s'adapter et se fondre dans l'effectif, ou est-ce que les dirigeants se demandent un peu pourquoi ils l'ont recruté?
Ah bah, il se demande déjà, pourquoi c'est pas... Pour à ce prix-là, alors même si cet été, c'était un mercato complètement fou,
il
se demande quand même si ce genre-là est quand même prêt tout de suite à jouer pour le Barça. C'est vrai qu'il a quoi? Il a 3 saisons au plus haut niveau, grand maximum, Dembélé. Et moi, ce que l'on me dit, et ce qu'on peut constater, c'est vrai qu'au niveau... Alors, c'est plus un problème physique, parce qu'il est prêt. C'est pas un problème mental, parce que je pense que c'est un joueur capable de jouer au plus haut niveau, mais c'est un problème tactique, il est complètement perdu maintenant sur le terrain. Alors moi, qui suis comme souvent contre nous, et je vois des choses que la caméra finalement ne veut pas prendre, et combien de fois Messi le replace, Suarez le replace, Piqué le replace, Iniesta le replace pour le match, il lui dit ce qu'il faut faire. Et alors, je sais plus qui parlait tout à l'heure, que c'était un vrai show le Barça cette saison. Je suis désolé, mais combien de matchs on s'est ennuyé au Barça cette saison, combien de fois on s'est ennuyé? Il y a eu des coups de génie de Messi, il y a débloqué des situations. On est très très loin, mais très très loin, même du jeu avec Luis Enrique en 2015.
François,
à des kilomètres.
Juste pour terminer, une petite question. Est-ce que par hasard, dans les commentaires, on disait « Et si Neymar avait été là, s'il était resté, est-ce qu'on aurait été éliminé ?»
Bah, ils ont été éliminés l'an passé, avec... vous avez vu 3-0 avec Neymar, 0-0, mais ils étaient passés contre le PSG avec Neymar. Donc on ne saura jamais, mais cette équipe-là, forcément, est plus forte qu'avec Neymar que sans. Alors on parlait d'un équilibre trouvé sans Neymar, mais bon, quand Messi ne peut pas, quand Suarez ne peut pas, c'était comme Neymar qui réglait beaucoup de situations.
Le seul point où on regrette Neymar, c'est qu'avec Neymar, ils obtenaient plus de pénaltys.
Oui.
Il y a le vrai chantier du milieu de terrain.
Il y a quand même un truc, quand on parle du Barça devant, c'est que Messi, il a raté son match, mais il fait une super saison. Oui. Suarez, c'est vraiment pas le cas pour le coup. Je sais pas comment ça se passe là-bas, quel avenir ils envisagent pour lui, mais cette année, c'est vraiment plus
Suarez. Il a prolongé l'an passé.
Ah ouais, mais enfin là...
Oui, puis il est très proche de Messi, donc tu sais que ça va repartir aussi quand même.
Ça va repartir, oui, mais sans la Ligue des Champions pour ce qui est du FC Barcelone. Alors, je vous rappelle les résultats de la soirée. Le Real défait sur sa pelouse par la Juventus de Turin 3-1, mais un pénalty de dernier instant qui donne la qualification au Real Madrid. Un pénalty dont on parlera sûrement beaucoup, non seulement demain dans Radio Foot, mais ces prochains temps. Et puis le Bayern Munich, tenu en échec par Séville sur son terrain 0-0, mais le Bayern qualifié. Merci beaucoup, messieurs.
Merci
David et Patrick, de nous avoir accompagnés pour revenir sur ces matchs de la soirée. Merci aussi à David Finzel, évidemment, et Guillaume Ploquin qui était à la réalisation. Rendez-vous demain donc, et vous pouvez nous réécouter si vous voulez sur le site RFI, sur l'application Pure Radio ou aussi sur la page Facebook de l'émission. Merci, bonne nuit et à demain.